Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu, l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH en sigle, déplore la multiplicité d'attaques contre les civils et les positions des FARDC en territoire de Beni. Selon le coordonnateur du CRDH, toutes ces exactions se passent dans des zones militarisées, mais aucune disposition n'est prise pour contrer ces attaques. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Bernard Amissi Kalonda. Il est administrateur du territoire de Beni, province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur l'administrateur Bernard Amissi Kalonda.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mouaka, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Il est élu de Beniville. Bonsoir, professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir, Guy Maté.
Et professeur Bouendoua Elouga Essi, il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Bonsoir, professeur Bouendoua Elouga Essi.
Bonsoir, cher ami.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'ONG des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, déplore la multiplicité d'attaques contre les civils et les positions des FARDC en territoire de Beni. Selon le coordonnateur du CRDH, toutes ces exactions se passent dans des zones militarisées, mais aucune disposition n'est prise pour contrer ces attaques. Jean-Paul Paloukou, coordonnateur du CRDH, est joint au téléphone par Christian Mapendano.
Pourquoi les rebelles semblent encore se glorifier dans la zone? Et nous avons réalisé que depuis un certain moment, il n'y a pas des opérations militaires de traque contre les rebelles. Donc il y a une sorte d'arrêt de ces opérations, et ce qui serait d'ailleurs à la base des recrudescences encore de l'insécurité dans cette partie du territoire de Beni. Et nous disons que ça c'est suspect dans la zone où on a déployé une importante quantité d'armées, on ne peut pas comme ça arrêter d'une manière officieuse les opérations militaires qui sont censés rétablir la sécurité et la paix. Nous lançons encore un appel au commandement des opérations militaires Sokola 1 à pouvoir continuer avec des opérations militaires. Il y a des villages qui sont vraiment vidés par la population. Des villages dans lesquels, si vous y arrivez, vous allez trouver que les herbes commencent même à pousser sur les murs des maisons.
Les ONG qui déplorent la multiplicité d'attaques contre les civils et les positions des FARDC demandent la reprise des opérations Sokola 1, suspendues pratiquement depuis un temps sans aucune raison apparente. Christian Mapendano revient sur les dernières attaques dans ces territoires de Beni.
Le tout dernier cas d'attaque a été signalé à Kokola, une localité située à environ 50 km au nord de Beniville, dans le groupement de Bambou Bakisiki, secteur de Benimbaou, sur l'axe Eringeti, c'est sur la nationale numéro 4. Il s'agit d'un véhicule de marque Fuso qui quittait Beni en partance pour Bunia, qui est tombé dans l'embuscade des rebelles. Conséquence, des civils tués et le véhicule incendié selon les ONG de défense des droits de l'homme de Beni. Par ailleurs, en date du 15 septembre dernier, dans la même localité, un autre cas d'attaque a eu lieu au cours de laquelle 3 personnes avaient perdu la vie. Les organisations de la société civile de Beni, dont le Centre d'études pour la paix, le développement et les droits de l'homme CEPADO, indiquent également que depuis le 17 septembre, des éléments présumés islamistes de l'ADEF ont kidnappé 3 cultivateurs dans leurs champs aux environs de la ville de Beni et ces civils restent jusque-là introuvables. Les mêmes organisations indiquent que ces rebelles sont en errance dans certaines zones de Beni, notamment le long de la rivière Semouliki dans le secteur d'Mbaou. Cette situation inquiète les activistes des droits de l'homme qui indiquent que les opérations Sokola 1 semblent être suspendues depuis un temps sans raisons apparentes. Goma, Christian Mapendano, Radio Okapi.
Merci Christian Mapendano pour ces dossiers. Bernard Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni, province du Nord Kivu, l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, dénonce la multiplicité d'attaques armées contre les civils et les positions des FARDC. Comment vous analysez cette multiplicité d'attaques? Allô, monsieur l'administrateur du territoire Kalonda? Allô, apparemment nous l'avons perdu. Professeur Arsène Mouaka, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Vous êtes élu de Beniville. Vous venez de Beni, de la ville de Beni. Comment vous analysez cette multiplicité d'attaques que dénonce l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme au CRDH?
Merci beaucoup Guy Maté. Je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à notre armée, les FRDC, pour le travail appréciable qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain depuis qu'il y a eu changement dans le commandement et même dans les troupes. Je voudrais reconnaître le travail appréciable qui est en train d'être fait et qui a donné une certaine accalmie à la situation. Je voudrais des deux reconnaître que depuis un certain temps, il y a recrudescence des attaques et ces attaques se manifestent pratiquement dans des anciens modes puisque vous savez que au second semestre de 2014 et au premier trimestre 2015, il y a eu le carnage. C'était le pic de carnage puisqu'il faut avouer que les gens sont égorgés dans cette région depuis plus de 20 ans. Et donc les égorgements ne sont pas très 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 nouveaux, mais le pic a été atteint entre pratiquement octobre et mars de cette année, octobre 2014 bien sûr. Et donc des choses qu'on a déplorées par le passé réapparaissent, notamment les kidnappings, des coupeurs de route, pratiquement des enlèvements et autres sortes d'esclavage où on utilise la population pour le transport et ainsi de suite. Et donc il y a des choses de ce genre qui reprennent, malheureusement, qui retracent encore le tableau qu'on a déploré pratiquement au début du carnage, c'est-à-dire en octobre 2014, où on a vu pratiquement au sein de l'armée des messages genre il y a quelques unités qui ne sont pas payées depuis 1, 2, 3 mois, où on a entendu des choses genre nous avons informé les responsables de la sécurité de l'errance de certains rebelles et il n'y a pas de réaction, et pratiquement il y a un tableau mauvais comme celui qu'on a déploré avant octobre 2014 qui est en train de se dessiner progressivement et qui nous inquiète.
Oui, professeur, vous rendez hommage au FRDC pour le travail appréciable qu'elles abattent, c'est ça vos mots. Mais en ce temps, vous déplorez la détérioration de la situation sécuritaire. Comment vous expliquez cela?
Oui, absolument. Moi, j'étais dans la région, j'ai sillonné toute la région puisqu'il faut informer les auditeurs qui nous suivent que nous sommes dans une zone qui mesure moins de 50 km carrés. La zone dont nous parlons, là où il y a les EDF, c'est dans le groupement de Bambou Bakisiki qui n'a pas plus de 50 km carrés et qui est hyper militarisé. Et donc, il y a des éléments de FRDC qui veillent jour et nuit. Et moi, j'apprécie ce travail. Il y a des espaces où nous avons circulé comme députés pendant nos vacances parlementaires, où nous avons été menacés par la population qui apprécie le travail de certains commandants et de certains éléments de FRDC qui accompagnent les populations jusque dans les champs. Il y a des espaces où, en fait, il y avait une insécurité incroyable, où pour la première fois, on a vu des commandants et des éléments FRDC pourchasser cette fois-là des rebelles et avoir des gens tués parmi les rebelles. Et donc c'est des choses nouvelles, mais au même moment, malheureusement, un nouveau mauvais tableau se redessine. Et donc ce que moi je déplore personnellement, c'est apparemment une certaine absence de décision d'en finir. Et donc il y a une sorte d'usure qui s'installe où on s'installe et pratiquement c'est ce que notre ami de CRDH déplore pour dire on ne semble pas observer une sorte d'opération généralisée où on traque les rebelles comme on l'a vu début 2014 où on a mené des opérations et des opérations qui ont amené les rebelles à ne plus bouger.
Professeur Hassan Mouaka, cette ONG attribue cette situation, donc cette multiplicité d'attaques à un certain relâchement des opérations militaires et affirme même que les opérations Sokola 1 sont suspendues. À votre avis, comment peut-on expliquer cela? On suspend les opérations dans une zone où les civils sont quotidiennement attaqués par les assaillants. Il y a même les FARDC qui ne sont pas épargnés par ces différentes attaques. Comment c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre de suspendre les opérations militaires?
Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les opérations sont suspendues, puisque comme je vous ai dit, j'ai circulé à Kokola, j'ai été à Linzo-Sesene, j'ai été à Eringeti, j'ai été à Mbaou, à Ouicha, et ainsi de suite. Quand vous êtes sur la nationale numéro 4, sur votre parcours, vous avez comme ça des éléments qui sont en opération. Et même à cette minute ici où nous sommes en train de parler, les FARDC sont en train de se battre à quelques kilomètres du centre-ville de Beni. Il y a des crépitements de balles, il y a des affrontements à cette minute ici, parce qu'il y a des gens qui venaient d'être enlevés, et ainsi de suite, et les FARDC sont en train de faire. Mais ce que peut-être notre ami de CRDH veut dire, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, puisqu'on a connu des opérations où pratiquement on a vu non seulement la logistique visible à l'œil nu de toute la population être déployée, on a vu le gouvernement central se déployer, le ministre qui a l'habitude de faire des conférences de presse, on l'a vu faire des conférences de presse, non pas pour parler de l'auto-exclusion, et comme disait quelqu'un de l'auto-inclusion, hein, ce n'était pas ça, on a vu pratiquement toute la nation mobilisée contre un mal. Et le lancement des opérations Sokola 1 en janvier 2014, c'est ce que ça a été. Et ce n'est pas ça pour le moment. Et donc c'est comme une opération marginale, dont la logistique est faible, et où on ne voit pas pratiquement les FARDC faire ce qu'elles ont fait avant. Et donc c'est ce que la population réclame, parce qu'elle est prête, elle collabore, elle dénonce. Et elle est prête à accompagner son armée. Et l'armée a des commandants appréciables. Elle est à position. Mais on a besoin d'une décision politique. On a besoin que le ministre qui fait trop de conférences de presse refasse une conférence de presse pour mobiliser toute la nation et que les moyens suivent. Qu'on ne dise pas qu'il y a des militaires qui sont impayés, parce que nous avons été à vacances parlementaires. Il y a eu quelques militaires impayés. Il y a eu des veuves de militaires non payés qui ont même marché quand nous étions là. Et donc ce sont des choses anormales. Et ce sont des choses qui ressemblent au tableau pratiquement qu'on a déploré avant le carnage d'octobre 2014.
Alors comment vous expliquez cette incurie dans les chefs des autorités militaires lorsque vous dites qu'on sent qu'il y a une certaine réticence quand il faut prendre des décisions?
Non, je ne parle pas des autorités militaires, parce que les autorités militaires sont des techniciens, de nous politiciens. Je dis que le gouvernement congolais qui a la responsabilité de protéger les Congolais ne fait pas assez comparativement à ce qu'il a déjà fait, puisque là on est dans une comparaison entre début 2014 lorsqu'on a lancé les opérations et pratiquement une redynamisation des opérations avec un nouveau commandement que la population a souhaité, puisque tout le monde a dénoncé le commandement précédent. Et donc on est dans une situation favorable et nous disons que le gouvernement se ressaisisse. Il y a des problèmes dans leur organisation privée qu'on appelle majorité présidentielle. C'est une organisation privée. Ils ont des problèmes de déchirement interne. Qu'ils se concentrent sur les affaires publiques. Nous tous, dans nos partis, nous avons déjà qui quittent. Ça n'a jamais été une question nationale.
Merci, professeur. Bernard Amissi-Kalunga, administrateur du territoire des Beni, province du Nord Kivu. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, dénonce la multiplicité d'attaques armées contre les civils et les positions des FARDC. Comment vous expliquez cette situation?
Bon, en fait, nous avons vraiment il faut éclairer l'opinion. Nous observons ces derniers temps des attaques ciblées, comme les cas que nous avons connus à Opira. Où un candidat député provincial a été abattu. Nous avons le cas toujours au Pira, toujours ce sont des attaques toujours ciblées. Mais on n'a jamais connu une attaque d'une des positions FARDC, sauf le 10 septembre, il y a eu attaque de Maï-Maï à Mamouvé. Certains fils du terroir qui sont venus attaquer les positions FARDC. C'est ce qu'il faut d'abord donner à l'opinion nationale. Bon, en fait, il y a à relever la guerre.
Ah, Allô, Bernard Amissi. Est-ce qu'il y a moyen de bouger un peu parce que votre ligne est en train de se détériorer? Allô? Allô? Apparemment, nous avons une fois de plus perdu. Professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Oui, quelle analyse vous faites de cette situation sécuritaire dans Beni au Nord Kivu?
Bon, je vais d'abord saluer l'honorable qui est à mes côtés, qui se trouve être un collègue. Je suis bien content d'être là, même si naturellement on a les pleurs aux yeux au vu de ce qui se passe à Beni. Je salue aussi l'administrateur du territoire de Beni, M. Amissi Kalonda Bernard, même si on n'arrive pas à le joindre de manière effective. Mais moi, l'analyse que je peux porter de prime abord, ce serait une analyse qui se concentre d'abord sur la question de l'insécurité, la question de l'insécurité à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Cette insécurité est inséparable de tout ce qui se déroule aux alentours de notre République et surtout dans cette partie de la République qui est contiguë à des pays tels que l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie. Et c'est ainsi que moi je pense que si on veut analyser cela, on devrait d'abord s'étonner dans un premier abord de la faible mobilisation et d'une sorte de perception asymétrique des politiques publiques quand on est à l'Est et quand on est à l'Ouest de la République. J'irai jusqu'à dire, même si cela devrait choquer, que j'ai comme l'impression que les préoccupations économiques et bassement alimentaires sont à l'Ouest et les préoccupations sécuritaires et hautement vitales sont à l'Est. Ce qui veut dire que, grosso modo, moi je suis étonné, venant du Sud Kivu et du Nord Kivu d'ailleurs, qu'arrivé à Kinshasa, on n'a pas du tout l'impression que la République brûle de l'autre côté de la République. On n'a pas l'impression en fait que quand on a passé à Goma une nuit et qu'on sait qu'on va se coucher à 20h, qu'on s'imagine à Kinshasa, au fait la fête est tout le temps, on n'a pas l'impression vraiment que la République perçoive de manière égale, identique et symétrique la question. Deuxième cause de l'insécurité, à mon humble avis, c'est qu'on a accumulé pas mal de frustrations, des frustrations dans des alliances qui ont toujours été mal vécues, qui ont été des alliances faites, défaites, refaites, contrefaites, et qui ont laissé pas mal de, comment dirais-je, de frustrations. Je pense ici par exemple aux suites nécessaires de l'AFDEL, je pense aux suites nécessaires du RCD, je pense aux suites nécessaires du CNDP, du M23, parce que tout cela laisse des traces et sont des traces mal cicatrisées qui réapparaissent assez souvent. En troisième lieu, je disais que je pense que nous oublions très vite les grandes figures de l'histoire du Kivu, de l'histoire du Nord Kivu, du Sud Kivu, et ça me fait de la peine, même si, bon, peut-être que c'est pas l'occasion d'en parler, s'imaginer qu'il y a des grandes autorités comme les Mbusa Nyamwisi, tout un tas d'autres, que d'un jour, un jour apparaissent et un autre jour ils disparaissent, et puis après on commence à raconter beaucoup d'histoires, et on a cette scène, les Roubaix-Rois, et tout un tas de gens, en fait, qui, d'une manière ou d'une autre, au moment où on en a besoin pour colmater les brèches qui se sont créées, on ne les voit pas réapparaître. Les partis, à la limite, aujourd'hui, sont diabolisés, hier glorifiés, aujourd'hui laissés de côté, et cela crée pas mal, comment dirais-je, de problèmes. En quatrième lieu, les causes de l'insécurité à Beni, je pense que ces causes-là proviennent de l'insoutenable comparaison entre le développement de nos voisins et une misère endémique dans nos provinces. Le Nord et le Sud Kivu regardent très facilement se transformer en un marché impitoyable de la communauté de l'Afrique de l'Est. On ne produit plus rien, tout vient de l'autre côté, et puis bon, ben, au quotidien, ce ne sont que des guerres, on est pillé, on est ravagé, et cela crée quand même pas mal de choses. chose. Et pour terminer, je pense grosso modo que nous nous retrouvons dans une situation politique où les lendemains ne chantent pas, où les gens hésitent à s'engager, doutent de ce qui peut arriver, et on se retrouve donc dans une situation à tout le moins où chacun part au plus pressé sans essayer d'envisager l'avenir de manière effective.
Oui, professeur Bouendo Elouga, et si vous avez évoqué quelques causes de l'insécurité dans l'est de la RDC, notamment la perception de cette insécurité, selon qu'on est à Kinshasa ou à l'est du pays, vous avez suivi le professeur Arsène Mouaka qui a parlé de l'incurie, n'est-ce pas, de Kinshasa quand il faut prendre des décisions par rapport aux opérations militaires. Est-ce qu'on peut attribuer cette incurie à cette perception?
Oui, je pense que lui, il est beaucoup plus politique que moi, le professeur Mouaka, et il vient vraiment du terrain et du terroir et du territoire même où se passe tout cela. L'incurie, je l'ai souvent suivi, et naturellement que étant dans l'opposition, voyant ce qui se passe, je pense que là, il se réserve d'une manière ou d'une autre parce qu'il est aux affaires, mais je pense que c'est beaucoup plutôt qu'une incurie, c'est une démission totale. Je me souviens très bien, je vais le rappeler, la phrase, je vais la mal à reprendre celle que disait Julien Paluku, son excellence, monsieur le gouverneur du Nord Kivu, on a l'impression en fait que grosso modo les préoccupations sécuritaires ne sont pas prises réellement par le pouvoir central, à telle enseigne que quand on est à l'est, on a l'impression d'être à la périphérie et à la limite presque loin des préoccupations les plus vitales. Parce que la vraie question, la seule question, l'unique question en fait de la République, c'est sa sécurité. Et sa sécurité, elle est toujours menacée à l'est.
Oui, vous avez aussi, parmi les raisons, vous avez évoqué aussi l'accumulation des frustrations par rapport aux alliances qui ont été conclues. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les alliances ont été conclues, elles n'ont pas été respectées, ou les alliances ont été conclues, mais c'est des alliances contre nature?
Oh, j'ai dit que ce sont les alliances qui ont été faites, défaites, refaites et assez souvent contrefaites. Je pense que les suites nécessaires avec nos amis qui sont engagés avec l'AFDEL, je pense les suites nécessaires avec ceux qui ont été au RCD et tout et tout. Et la population à la base, à la fin, in fine, c'est la population qui trinque parce qu'au fait, tous les pots cassés se retrouvent contre une population qui, cultivant son champ, secourant les forces en présence ou bien les hommes qui sont au pouvoir en présence se retrouvent du jour au lendemain abandonnés à leur triste sort dans leur champ et le lendemain se faire abattre pendant qu'ils cultivent. Et je trouve cela totalement affreux, d'autant plus que non seulement il y a l'incurie, mais il y a une sorte d'amnésie générale de tous ceux qui ont pris les armes, soi-disant pour défendre la République et qui ne défendent pas les paysans.
Oui, on nous signale qu'on n'arrive toujours pas à joindre. Voilà, il est là, l'administrateur du territoire des Béni, province du Nord Kivu, M. Bernard Missi Kalonda. Monsieur l'administrateur, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, la question qu'on vous a posée, c'était celle de savoir comment vous analysez cette multiplicité d'attaques dans Béni.
Ok, je disais ceci. L'honorable a souligné le début des opérations. Et à notre niveau, nous notons que à partir de 2014, la guerre a commencé. L'ennemi était dans le schéma classique. La guerre où il y avait un front. Maintenant, après, à septembre 2014, l'ennemi, maintenant c'est une guerre non classique. Voilà ce que nous devons d'abord démontrer à l'opinion. Et vous savez, une guerre qui semble aller dans le sens du terrorisme, voilà la situation. Ici, je note que il n'y a pas un adversaire qui peut faire face au FARDC. Il cherche la cible faible, c'est la population qui s'attaque. Là, nous déplorons des cas des kidnappings, des enlèvements, mais nous avons récent des attaques que nous avons enregistrées sur l'axe Wicha Eringeti, les attaques au niveau de Opira que nous qualifions qui ressemblent aux attaques ciblées. Voilà, nous continuons à suivre la situation. Et à vrai dire, nous avons aussi un autre phénomène que l'honorable n'a pas peut-être laissé. Il vient de vacances parlementaires. Il y a des attaques de Maï-Maï dans une des positions de FARDC. Voilà la situation. Voilà un autre front maintenant. Ce sont les Maï-Maï composés de jeunes recrutés par les émissaires venus de Lubero. On les appelle Maï-Maï, je ne sais pas de quelle Fimba, Maï-Maï, je ne sais pas quelle forme. Voilà la situation. Bien qu'on dit, la population où nous soutenons nos FARDC, mais ce phénomène qui nous inquiète, il y a de nouvelles situations compliquées où un groupe de jeunes qui viennent s'attaquer, FARDC, voilà la situation.
Oui, monsieur. Monsieur l'administrateur du territoire.
Oui.
Vous dites qu'il y a des nouvelles situations, des nouvelles donnes, notamment vous avez évoqué les schémas classiques qui étaient utilisés par les assaillants, par les rebelles au départ, mais depuis un certain moment, ils n'utilisent plus ces schémas, ils utilisent un schéma non classique, et donc la guérilla. Vous parlez d'une nouvelle force, les Maï-Maï, qui sont entrés aussi dans l'attaque. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous conformer à certaines propositions de certains analystes et certains experts qui ont toujours demandé que les FARDC puissent mettre en place des unités capables de s'adapter à cette nouvelle technique qui est utilisée par les assaillants, par les rebelles.
Voilà, je voulais peut-être vous informer. Les FARDC s'est adapté à cette nouvelle donne. D'ailleurs, si nous voyons la diminution sensible des cas de les tueries que nous avons enregistrées par-ci par-là. Je crois même les honorables apprécient le travail actuel des FARDC. Je crois que c'est déjà maîtrisé, mais l'ennemi ne voit que là où il y a un trou qui opère, donc il n'y a pas une force qui peut faire face. Voilà la situation que nous avons. Et même aujourd'hui, nous continuons à fouiller les forêts. Je sais que c'est une forêt dense et avec des difficultés écologiques. Mais nous avons aussi un autre problème, quelques collaborateurs. Ça, il faut dénoncer. Et l'ennemi est dans trois groupements. Banane de Kainama, Bambou Bakisiki et Batangimbao. Mais si ces Adefnalo reçoivent de l'appui de certains compatriotes, c'est ce que nous devons déplorer. Alors, bien qu'il y ait eu des sensibilisations, mais ça n'évolue pas.
Oui,
pour
monsieur.
Nous, il faut. Allô?
Oui, monsieur Amissi Kalunga, le coordonnateur de l'ONG CRDH a lui évoqué même la suspension des opérations Sokola 1. Il y a le professeur Hassan Mouaka qui est député national élu de la ville de Beni, lui qui dit que les opérations ne sont pas suspendues, mais il a constaté un certain relâchement et il attribue cela, n'est-ce pas, à l'inquiétude des autorités qui sont à Kinshasa. Comment vous expliquez cela?
En fait, il n'y a pas un relâchement. Et depuis que nous avons déclenché les opérations, même si nous disons des relâchements, alors que quelque part nous apprécions le travail abattu par les vaillants militaires, je ne peux pas soutenir ça. Mais ce que nous devons savoir, c'est peut-être au niveau de nous, hommes politiques et les forces vives, peut-être les hommes d'affaires, nous devons nous mettre ensemble pour soutenir notre armée, parce que une guerre asymétrique, même les Boko Haram, même au Nigeria, ça se passe toujours, il y a toujours des tueries. Mais si nous mettons ensemble,
merci,
nous allons vaincre. D'ailleurs, le travail actuel de sensibilisation que nous menons, nous avons déjà des résultats.
Merci. Et,
je crois il n'y a pas vraiment à dire, il y a relâchement, mais nous devons renforcer cette collaboration et soutenir notre armée, parce que c'est la population qui souffre.
Merci, monsieur Amissi Kalonda, professeur Arsène Mwaka. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Maître Zozo Sakali, depuis Kafou, dans la ville de Bukavu, en province du sud de Kivu. Au vu de la situation sécuritaire actuelle, ces ONG ne devraient plus se limiter à pleurnicher, à crier, moins encore à dénoncer, mais plutôt à passer à la vitesse supérieure, en initiant des actions en justice contre ces malfrats qui se permettent d'ôter des vies aux citoyens civils innocents de Beni, de Moutaroule et de partout en RDC.
Oui, professeur, c'est moi, quoi.
Oui, je voudrais dire à Zozo qu'on porte plainte contre celui qu'on a attrapé pendant plus de 7 mois. Les gens ont été égorgés à Beni, on n'a jamais attrapé les gorgeurs, le sang à la main, pour qu'on puisse dire voici les gorgeurs. Et donc c'est cela le mystère de ce qui se passe à l'Est. C'est à cela
ça, c'est aussi un autre phénomène qui étonne, hein, parce qu'en dépit de l'armada qui est déployée dans cette partie du pays, on n'a jamais attrapé aucun de ces assaillants. C'est quand même étonnant.
Exactement. Et donc quand il dit qu'il faut porter plainte contre quelqu'un, ça signifie que quelqu'un a été attrapé après qu'il ait égorgé quelqu'un. Et donc je pense qu'il il parle d'un souhait. Nous souhaitons qu'un jour les gens soient attrapés. Mais je voulais tout de suite dire à notre ami Zozo que Djamil Mukulu, le chef de l'ADF, a été attrapé par la Tanzanie. Et je salue le gouvernement tanzanien puisqu'il est très vigilant. Il a mis la main sur lui.
C'est extradé en Ouganda.
Et il a été extradé en Ouganda. Malheureusement, ce n'est pas en Ouganda qu'il a commis des affres. C'est au Congo. Et depuis qu'il est en Ouganda, il y a silence radio au Congo.
Et le pourquoi ministre, le Congo n'a pas,
le
n'a
ministre
pas,
de la justice
pour
obtenir son extradition. Le ministre de la justice, le ministre des Affaires étrangères n'accompagne pas le victime, puisque le victime a droit à la justice. Djamil Mukulu doit répondre de ses actes ici, et c'est même une clé importante. Et donc je me dis, à ce moment où le chef des EDF est attrapé, c'est un moment propice pour le Congo de mener des opérations plus victorieuses, puisque au moins sur le plan psychologique, ces groupes peut être affaibli par ce phénomène. Et donc, ce qui étonne justement, c'est de voir que, au lieu que ça puisse regarder le moral des politiciens, malheureusement. Et en disant que l'armée fait son travail, je ne dis pas que le travail est très bon. Parce que j'ai été à Kokola, à l'administration des territoires laissés. Il n'y a personne. J'ai été à l'Inzo-Sesene. C'est désert. J'ai été à Maïmoya. Les gens sont déplacés, ils sont dans des écoles.
Et donc les assaillants exploitent toutes ces faiblesses-là.
Absolument. Ça signifie qu'il y a un travail qui doit être fait. Et l'administrateur des territoires doit reconnaître que quand il y a eu relève, eh bien, le commandement a fait du travail. Mais depuis un certain temps, puisqu'il cite seulement un côté, je voudrais lui citer Mangoli Kené, je lui cite Kalaou, je lui cite partout, les gens sont kidnappés tous ces derniers temps pour dire que ça fait partie de son territoire et qu'il y a quand même un problème. Donc, nous disons que l'armée fait son travail, nous ne disons pas que l'armée ne fait pas son travail, mais nous disons que les résultats étaient suffisants. Et moi, politicien, je tente de croire que la clé de ces résultats se trouve à Kinshasa.
Merci, professeur Bouendoua Elouga. Et s'il y a une question qui vous est adressée, elle vient une fois de plus de Bukavu. Au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Connaître encore l'insécurité à Beni et surtout en particulier dans les zones militarisées, pourtant censées par les faits même sécurisées, c'est vraiment inconcevable. Mais à y regarder de près, je pense qu'il se pose encore visiblement au niveau de la hiérarchie militaire un sérieux problème de contrôle et de la maîtrise des troupes des FRDC jusque-là déployées dans cette partie du pays. Ce qui ne pourrait pas n'est pas chaque fois pousser ces dernières à la dérive ou au débordement.
Oui, professeur Bouendoua Elouga, ici, le professeur Arsène Mwaka, lui, estime que le problème, c'est Kinshasa.
C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, mais d'autant plus que Robert Baone pose toujours des questions assez concises, précises et incisives. Mais je pense que la grosse difficulté que nous avons, c'est que nous avons une administration qui ne suit pas pas forcément l'évolution ni des techniques ni des tactiques. Et l'armée, là, beau avoir le moral requinqué, n'en demeure pas moins assez regardante et assez espérante pour ceux qui viennent de Kinshasa. C'est que nous avons une armée à l'Est qui n'a Dieu que pour l'Ouest, qui regarde qui a les oreilles tournées vers l'Ouest et la réalité sur le terrain lui échappe. Et je pense que le plus important à faire, ce serait carrément que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit, que sur place, sur le coup, sur le champ, ceux qui dirigent notre armée puissent riposter. Dussent-ils aussi aller au-delà de nos frontières? Parce que moi, je pense que il y a comme c'est un peu frustrant et fatigant de chaque fois qu'on est attaqué par les ADF, arriver au fait à la Semliki ou bien à la Rosizi, on s'arrête. Et puis, il vaudrait quand même aller essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté et vraiment porter le fer là où il peut blesser et faire mal.
Et donc, il faut une certaine décentralisation de la manière de gérer ces opérations militaires dans l'Est de la RDC. Il ne faut pas attendre que Kinshasa fasse l'impulsion. Il faut que les autorités militaires qui sont sur place puissent avoir le souci de pouvoir de prendre certaines décisions.
Je pense qu'on ira vers là-bas parce qu'on ne peut pas tout le temps attendre se faire canarder et sans riposter. Mais la vraie question, elle est aussi quand même de réorganiser nos services dans le genre de Sungusungu comme ça se passe en Tanzanie ou bien les Nyumbakumi. Sungusungu, ce sont des gardes qui sont assez souvent... C'est assez compliqué à expliquer, mais ce sont des gardes nocturnes qui se font, mais ça se fait aussi au Nord Kivu naturellement, ça demande à être encadré et vraiment un peu plus réfléchi.
Monsieur l'administrateur Amisi Kalonda, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Denis Komutaya, à partir de Kisangani, un professeur oriental. Ça nous étonne toujours du fait que les services de renseignement et de sécurité ne parviennent pas à capturer un seul de ces assaillants et le présenter devant la justice pour nous dire ouvertement ce qu'il en est. L'ennemi porte toujours le sobriquet des ADF NAL, pourtant, en réalité, c'est une autre chose. Ce qui dénonce la complicité de certaines autorités de la place dans ce montage et sollicite le remplacement de certaines autorités et individus impliqués dans ce théâtre qui endeuille jour et nuit le peuple de Benville et du territoire.
Oui, monsieur l'administrateur Amisi Kalonda, vous avez évoqué la collaboration entre ces assaillants et nos compatriotes, en fait, les populations civiles. Vous avez même évoqué à un moment donné les hommes d'affaires. Est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder au sein de cette armée, de FRDC?
En fait, devons retenir que l'armée fait son travail convenablement, malgré cette nébuleuse que nous avons dans cette histoire de ADF NAL. Et nous devons comprendre que, à travers les efforts de tout un chacun, là nous insistons beaucoup parce que l'honorable a dit la solution pouvait venir de Kinshasa. Mais moi, je vois plus la solution doit être ici localement. Parce que le gouvernement met tous les moyens possibles à la disposition des FRDC. Et vous savez, lorsqu'il y avait la guerre au niveau des Rutshuru, là, c'était une guerre qui était classique et dans un laps de temps, il y a eu vite solution. Mais pour ce que nous avons, c'est pour les territoires de Beni, c'est vraiment ce que je peux toujours avancer. Et une complexité, parce que il y a toujours quelque part notre frontière, la partie avec le voisin, ça il faut aussi un problème. Nous devons aussi retenir que les opérations qui se déroulent, il y a des ADF NALU qui sont capturés lors des combats et il y a même certains des fils du terroir de la Congolais qui sont capturés. Parce que s'il y a quelqu'un qui en veut bien des preuves, peut-être on peut vous le présenter. Je crois que si nous remontons depuis les pauvres général Bauma, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés.
Monsieur Amissi Kalunda.
À chaque fois.
Monsieur Amissi Kalunda.
À chaque fois qu'on arrête.
Monsieur Amissi Kalunda.
Allô?
Oui,
que
faut-il pour finalement sécuriser la population des Béni, pour pacifier cette partie du pays? Vous venez de dire que la solution peut être trouvée sur le plan local. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Donc, nous avons toute la population doit collaborer avec son armée, son instrument, et il n'y a que la seule solution, comme les autres l'ont fait au niveau de nous. Et la Congo s'était bien passé, et pas la collaboration.
Monsieur Amissi,
il y a des collaborations, un ou deux personnes vont habiter.
Monsieur Amissi, la ligne se détériore, essayez de vous déplacer un peu. Oui, professeur Arsène Mouaka, que faut-il pour sécuriser la population des Béni? Que faut-il pour que l'on ne puisse plus déplorer les tueries, assassinats, massacres des populations des Béni? Que faut-il pour finalement sécuriser cette partie du pays?
L'axe principal de la sécurisation de la population des Béni relève du gouvernement central. L'administrateur du territoire qui est en train de parler, nous avons eu l'avantage d'être avec lui en face de la population à Oïcha, à Eringeti, et nous avons eu d'autres réunions à Béniville, et lui-même avait même des difficultés pour se déplacer. Quand il dit que tout est donné localement, je ne sais pas de quoi il parle, il est obligé de défendre une position officielle, mais lui-même n'a pas de véhicule pour superviser un territoire de plus de 100 km carrés.
Pourtant, il dit que le gouvernement met tous les moyens.
Il n'a ni moto, ni véhicule, ni carburant, ni dotation mensuelle. Il n'a rien.
Il demande la collaboration avec la population.
Oui, je voudrais lui dire que la population devant nous a chéri certains commandants, a chéri certains éléments de FRDC. Devant lui, la population collabore. S'il y a un individu ou deux qui collaborent, il ne doit pas dire qu'il y a une collaboration locale. Il y a une collaboration congolaise. Il y a des Congolais de partout qui sont attrapés dans cette affaire, du Maniema, du Sud Kivu, du Kasaï, et ainsi de suite, qui sont attrapés parmi les rebelles EDF, du moins à l'époque du général Bauma. Et donc, on ne doit pas pouvoir généraliser des exceptions. Et je voudrais dire, le deuxième axe, qu'il faut éviter de pousser la population à se poser des questions si réellement le gouvernement veut en finir ou pas. Parce que c'est vers là qu'on va finalement. Puisque quand la population demande qu'on a fini, on dit non, vous collaborez avec l'ennemi. Alors que la population a une demande claire, elle veut qu'on a fini, elle est prête à collaborer par tous les moyens.
Professeur, ça s'intéresse à votre conclusion. Il y a des experts qui estiment qu'on ne sait pas solutionner ce problème sans implication de l'Ouganda.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes dans une région qui est à l'intérieur de notre territoire, de telle sorte que la solution militaire a prouvé qu'elle peut en finir, et l'expérience de 2014 nous prouve que quand le gouvernement décidera, on en finira.
Merci, professeur Bouendoua Elouga Essi. Que faut-il pour sécuriser les populations? Que faut-il pour pacifier l'Est du pays?
Pacifier l'Est du pays passe au fait par un développement d'une capacité d'autodéfense et d'autogestion que n'ont pas nos populations, c'est-à-dire avoir la capacité de penser globalement pour agir localement, ce qu'on appelle la glocalisation. Et j'ai comme l'impression assez souvent qu'on ne laisse pas à nos populations le temps de pouvoir se prendre en charge.
Oui, vous avez dit qu'on ne peut pas dissocier la sécurité qui se vit dans l'Est du pays de ce qui se passe dans les pays limitrophes de notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je vais dire
sur votre conclusion.
Je vais dire tout simplement qu'il vaudrait bien quand même qu'on aille discuter, pas d'égal à égal seulement, mais vraiment dire, taper du poing sur la table devant nos copains, leur dire qu'on a aussi un peu de force, montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir.
Monsieur Amissi Kalunda, votre conclusion? Allô, monsieur Amissi Kalunda? Voilà, apparemment, il est encore parti. On a des problèmes sérieux avec la ligne de monsieur Amissi Kalunda. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Berry Franklin Luchaka à la réalisation sous la supervision de Pelle Kipela Mondo. À la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.